notre dernier invité, il y a quelques années de ça, a eu lui aussi l'appel du terrain. Il a eu envie de partir sur le terrain et il a tout plaqué pour devenir grand reporter. Et il s'est rendu dans les endroits les plus dangereux du globe pour couvrir les crises et les conflits. Et ce soir, il va venir nous raconter ce qu'il a vu et ce qu'il en a retiré. Merci de l'applaudir très fort, Charles.
Tu me remets le compteur ou pas ? Bonsoir. Donc je crois que j'ai pas énormément de temps, on est un peu en retard. Donc je vais attaquer tout de suite. Au mois de juin et juillet de l'année dernière, je suis parti en Irak pour faire deux documentaires. Et on était vraiment au cœur de la lutte contre Daesh. C'était la bataille de Mossoul, qui était le dernier fief des djihadistes dans le pays. Et le jour où j'ai atterri à Erbil, qui est la capitale du Kurdistan irakien, j'ai allumé mon téléphone et j'avais plein de messages, ce qui arrive jamais en général quand je pars dans ce genre d'endroit. De mes rédacteurs en chef, de ma famille, de mes proches, qui me demandaient est-ce que j'avais déjà décollé, est-ce que j'étais déjà arrivé. Et en regardant les informations, j'ai vu que deux grands reporters français étaient décédés le jour même dans la bataille de Mossoul. C'était Véronique Robert et Stéphane Villeneuve, que j'admirais beaucoup, et leur fixeur, qui est un espèce de journaliste local qui nous aide dans nos démarches de reportage, qui s'appelait Bakhtiar Haddad. Et ils sont morts en marchant sur une mine. Voilà, on peut avoir toute l'expérience du monde, être de très grands reporters, très expérimentés. C'est le genre de choses qui peut arriver dans ce genre d'endroit et on ne peut pas le maîtriser, c'est impossible. Et donc moi, je me rends en Irak pour réaliser deux documentaires pour Arte et France 5. Le premier sur la bataille de Mossoul dans les hôpitaux de guerre. En fait, je partais pour filmer les blessés, les civils qui subissent le conflit et qui n'ont pas vraiment de voix pour s'exprimer, pour raconter ce qu'ils vivent au quotidien. Et pendant deux semaines, j'ai passé deux semaines dans les hôpitaux de guerre en Irak, avec des hommes, des femmes, des enfants déchiquetés par les bombardements, par les blessures par balles, par les mines, parce qu'il y a énormément d'enfants qui marchent sur les mines, parce qu'ils jouent, et c'est très difficile de contrôler... la vie des enfants dans ce genre d'endroit. Ils ont envie de jouer, donc ils sortent des maisons, et voilà. Et après ces deux semaines particulièrement difficiles dans les hôpitaux de guerre de la bataille de Mossoul, je suis parti pour réaliser un autre documentaire qui s'appelle Les charniers de Daesh. Un charnier, en fait, c'est une fosse, un trou, dans lequel on jette des cadavres sans leur donner de sépulture décente. Et c'est d'ailleurs tombé aujourd'hui, c'est l'ONU qui a dit ça dans un communiqué, qu'il y aurait plus de 200 charniers en Irak que Daesh a laissé, avec plus de 12 000 personnes dedans, hommes, femmes, enfants compris. Donc moi, je pars pour réaliser ce documentaire, et je me rends dans un petit village au sud de Mossoul qui s'appelle Haloud, et je vais à la rencontre des villageois avec juste un fixeur et un gilet pare-balles, voilà. Et beaucoup nous disent que oui, effectivement, il y a des charniers autour du village, sauf qu'on ne peut pas y aller parce qu'ils n'ont pas été déminés. En fait, quand Daesh tue des gens, commet des massacres, et fait des charniers, crée des charniers, il les mine aussi, parce que ce sont des scènes de crimes, et pour qu'on ne puisse pas enquêter sur ces crimes, il mine les charniers pour faire encore plus de victimes, pour tuer les proches des gens qui sont dans ces charniers, parce que souvent, les premières personnes à aller sur ces charniers, c'est les proches. Si on se met à leur place, évidemment, si on a un frère, une sœur, un parent qui a été abattu par Daesh, la première chose qu'on aimerait faire, c'est récupérer le corps pour lui donner une sépulture décente. Et quand j'entends ça, ils me disent tous qu'il y a aussi beaucoup d'enfants. Évidemment, c'était fortement déconseillé de s'y rendre parce qu'ils n'avaient pas été déminés, il n'y avait pas eu d'organisme officiel qui était venu pour déminer et enquêter sur ces charniers. Et moi, j'ai dit, bah, on y va alors. Bon, l'enfance blessée, ça a toujours été un moteur dans ce que je fais. Et donc j'ai décidé de c'était quelque part une erreur un peu, mais j'ai décidé de prendre mon fixeur et deux villageois et de partir sur ces charniers pour voir si on allait ramener quelque chose. Et donc on est parti dans le désert. Il faut savoir qu'à ce moment-là, donc on est en plein cagnard en été, il fait environ 55 degrés. La salive se solidifie très très rapidement, donc c'est comme si vous aviez une couche blanche, il faut boire toutes les demi-heures, sinon on manque de s'évanouir, on est entouré de champs de pétrole, enfin, voilà, on a l'impression d'être aux portes de l'enfer, et je suis pas loin de la vérité quand je dis ça, dans le sens où quand on est arrivé, effectivement on est arrivé sur des charniers, Et voilà, et pendant 3 heures, j'ai passé 3 heures dans ces charniers à marcher vraiment en regardant partout, parce que j'étais avec quelqu'un qui était censé s'y connaître en déminage, mais voilà, qui avait des notions vraiment dérisoires. Et ce jour-là, on aurait très clairement pu mourir, c'était une erreur de ma part. Mais on a ramené des images, on a ramené des preuves, on a trouvé des os, on a trouvé des t-shirts d'enfants imbibés de sang, on a trouvé des cagoules avec des trous de balles, des bouts de plastique qui servaient à attacher les mains des gens avant de les abattre et de balancer leur corps dans les charniers. Et ça, c'est ce qu'on appelle un charnier informel, c'est-à-dire qu'il voilà, il n'a pas été officiellement ouvert. Et après ce charnier, je suis parti sur le plus gros charnier de Daesh en Irak et peut-être le plus gros massacre de Daesh en Syrie et en Irak, qui s'appelle le massacre de Spiker. Évidemment, Daesh, dans sa communication, en a fait une vidéo. Je déconseille fortement d'aller la voir parce que c'est inregardable. Et en fait, le massacre de Spiker, ça se passe à Tikrit, qui est à peu près à 160 km au nord de Bagdad, qui est la ville native de Saddam Hussein et qui a longtemps été un fief de Daesh. Et au moment où je m'y rends, il y a encore beaucoup de cellules dormantes de Daesh. C'est un territoire qui a été reconquis par une milice chiite qui travaille avec l'armée irakienne, qui s'appelle la milice Hashd al-Shabi. Donc on arrive sur ces charniers et c'est lunaire parce que vraiment c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines, des centaines de cadavres. Daesh a massacré 1700 personnes en 2 jours. C'est un abattoir humain, littéralement. Je vais raccourcir parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails que j'aimerais vous donner. Mais ils ont massacré 1700 personnes. C'était des jeunes, principalement entre 18 et 27 ans. Et moi, quand j'ai tourné ce documentaire, j'avais 27 ans. Donc voilà, on s'identifie facilement. Et donc je suis descendu dans les charniers avec les enquêteurs pour bien comprendre qu'est-ce que c'est, comment on peut travailler dans ce genre d'endroit. Et pendant 2 jours, en plein cagnard, on a sorti des corps. C'est des enfants, hein, c'est des adolescents. Quand on a 19 ans, on est encore un enfant. Et des corps mutilés post-mortem, décapités. Les corps n'étaient pas complètement décomposés, donc il y avait encore de la chair. Sur les corps, et enfin concrètement on a censuré 90% des images que j'ai tournées là-bas. Et il y a vraiment un moment où, quand j'étais dans ce charnier, j'ai dit fin de tournage, on arrête, et on est parti. Je suis parti juste après, et ce moment, c'était vraiment il y a un moment où je me suis retrouvé, j'étais vraiment au milieu du charnier. Il y avait des dizaines et des dizaines de corps autour de moi. Je marchais littéralement sur des charniers. Il y avait des corps en dessous de mes pieds. Et je me suis vu, en fait, un peu une vue d'en haut, où j'étais là, les bras ballants, avec ma caméra à la main, et tous ces gens autour de moi. Et plus rien n'avait de sens, en fait. Je suis quelqu'un d'assez motivé. Je suis passionné par mon métier. Il n'y a rien qui pourrait m'empêcher de le faire. Mais ce jour-là, vraiment, j'ai perdu tout espoir. J'ai essayé de trouver un mot pour décrire cette situation. Je me disais, c'est ça, c'est inhumain. Et en fait, non, inhumain, c'est pas ça, c'est pas assez fort. Et la seule chose qui venait, au final, c'était qu'il n'y avait pas de mots, que c'était innommable. J'avais les images du documentaire « Nuit et brouillard » d'Alain René dans les camps d'extermination de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était vraiment ça, c'était un abattoir humain. La vie, le corps, la chair n'avaient plus aucun intérêt. Et c'est un documentaire qui m'a traumatisé aussi après, parce que dans les charniers, il y a une odeur qui n'existe que dans les charniers. Une odeur de putréfaction, là, où les corps... je ne saurais pas le décrire vraiment, mais c'est inhumain. C'est une odeur qui... En fait, c'est un traumatisme psychologique. C'est très fort comme odeur, mais tout de suite, on identifie ça à une odeur humaine, du coup, ça reste dans la tête, dans l'esprit. Et je me rappelle que j'ai mis plusieurs semaines avant de me débarrasser de cette odeur, quand j'étais chez moi, quand je suis rentré après en France. Quand j'étais chez moi, je me mettais du savon dans les narines, vraiment, et je rentrais et je frottais jusqu'à m'en faire saigner pour essayer de faire partir l'odeur. Alors je savais pertinemment que c'était un trouble psychologique, mais juste pour avoir pendant quelques secondes autre chose que cette odeur-là. Et aussi je me forçais, parce qu'on se construit des barrières, quoi. Moi j'avais quand même un peu l'habitude de ce genre de situation et de ce genre d'endroit. Et donc on se crée des barrières, et ce que je faisais aussi, c'est je me forçais, quand j'étais dans la douche, à m'asseoir, à mettre l'eau brûlante pour essayer de me remettre un peu dans le contexte de cette chaleur-là. Et je me forçais à revivre cette scène pour pleurer. Et je pense que c'était surtout pour essayer de retrouver un peu d'humanité, parce que j'ai eu du mal vraiment à repartir après ce documentaire. Et j'ai eu la chance, donc je me dépêche, j'ai eu la chance quelques mois plus tard d'accompagner un mouvement humanitaire qui s'appelle la Love Army. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est, en gros, c'est des vidéastes et des créateurs du web, des artistes qui se sont mobilisés pour les réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Et moi qui avais vraiment l'habitude de ce genre d'endroit, j'étais déjà allé au Bangladesh, j'avais des appréhensions. Vraiment, je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? C'est bizarre. Mais bon, je suis parti avec eux, avec mes appréhensions, et au final, j'étais avec des gars de mon âge qui voulaient juste aider, qui voulaient apporter leur pierre à l'édifice parce qu'ils sont suivis par des millions de gens. Et là-bas, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on était une toute petite dizaine de gens avec de l'influence sur certains réseaux sociaux. Moi, je travaillais pour un média sur les réseaux sociaux aussi pour cette mission. Et à 10, dans une toute petite pièce au fin fond du Bangladesh, dans un camp de réfugiés, avec un tout petit Wi-Fi, on a fait la plus grosse campagne web en faveur d'une cause humanitaire pour venir en aide à des gens. Moi, en tant que reporter, c'était un rêve absolu de voir que, avec un tout petit peu de volonté et des gens qui avaient envie d'aider, on pouvait informer le monde entier, parce que c'est ce qui s'est passé. Les vidéos ont été vues des centaines de millions de fois dans le monde pour la cause des Rohingyas. Et moi, ça a toujours été mon combat. Je vais vraiment dans des endroits dont peu de gens parlent ou peu de gens vont. Et le problème, c'est que voilà, derrière. Quand je travaillais pour la télé, en tout cas, ça n'avait pas d'impact. Et là, la première force de la Love Army, c'était d'informer tout le monde. Enfin, il fallait vivre vraiment un peu à l'écart des réseaux sociaux ou de la télé ou de n'importe quel média la semaine où on y était pour ne pas voir ce qui se passait, pour ne pas entendre ce qui se passait pour les Rohingyas. Les Rohingyas, je précise juste, c'est une ethnie musulmane persécutée en Birmanie qui a subi un génocide l'année dernière, parce que c'est un génocide. On ne le dit pas officiellement aujourd'hui, parce que les enquêteurs de l'ONU ne peuvent pas accéder à la région de l'Arakan en Birmanie. Mais c'est un génocide ce qui s'est passé. Il y a des dizaines de milliers de gens qui ont sûrement été massacrés là-bas. Et voilà. Et derrière, on a fait une levée de fonds. On a levé un peu plus de 2 millions de dollars. Et avec ces 2 millions de dollars, il y a des gens qui sont restés sur place pendant depuis un an. Parce que ça fait un an qu'on a lancé la Love Army pour les Rohingyas. Et il y a des gens qui sont restés sur place tous les jours pour travailler avec les Rohingyas. Et on a lancé des projets humanitaires dans le camp qui ont eu un impact sur la vie de milliers de gens. Voilà, il n'y a pas vraiment de morale à cette histoire, mais c'est une mission qui m'a redonné foi en ce que je faisais et qui m'a redonné foi en l'humanité, parce que voilà, avec de la volonté, on peut vraiment faire bouger les choses. Je sais qu'on a souvent l'impression que dans notre quotidien, individuellement, c'est pas possible, on peut pas faire bouger le système, on peut pas faire bouger les choses. La Love Army, c'est une preuve vivante du contraire. C'est-à-dire qu'ensemble, on peut faire de grandes choses et on peut faire bouger les choses. Voilà, merci.